Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons ouvrir la Bible. Alors vous savez que c'est un culte un petit peu particulier puisque nous avons notre assemblée générale annuelle. Alors je vais être un petit peu plus bref, ce qui va changer de l'habitude, mais on va prendre quand même quelques textes, une petite réflexion et puis ensuite, eh bien nous partagerons tout simplement le bilan de l'année 2013. Alors, pour ce faire, je vous propose que nous fassions la lecture simplement d'un verset dans le livre des Proverbes. On va commencer par là. Livre des Proverbes, c'est très simple, verset 2, chapitre 22, Proverbe 22, verset 2. C'est ce qui va donner un petit peu le ton de notre réflexion. Et puis nous allons découvrir ce que l'on entend par richesse. Voilà. Le sens que l'on peut donner à ce mot, il doit être diversement interprété, certainement en fonction des individus, en fonction des situations sociales, je ne sais. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit ceci, « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Alors, riche, pauvre, dans cette rencontre, et ça paraît peut-être injuste, mais vous allez voir que Dieu ne donne pas ce que, comme la même manière et les mêmes choses que les hommes donnent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Pourquoi a-t-il fait le riche et pourquoi a-t-il fait le pauvre? Alors, la question est là. Et maintenant, nous allons, tout simplement, tourner les pages de notre Bible et notre récit que nous allons envisager ensemble. Dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 25. Alors, chapitre 8, verset 25. Et là, c'est une histoire que nous connaissons pour l'avoir souvent méditée dans nos réunions d'évangélisation, mais je crois que il est bon peut-être que nous lui donnons un caractère aussi d'exhortation et d'enseignement. Alors, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cantas, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche, dans son humiliation son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe « Je te prie. » De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà, nous connaissons ce fameux passage qui nous est rapporté dans ce fameux livre d'histoire que l'on appelle le livre des Actions des Apôtres, ou le livre des Actes, si vous aimez mieux. Il y a deux personnages qui apparaissent dans ce récit. Il y a un Éthiopien. C'est un homme, un étranger, un païen, pourrions dire, qui quelque part, a probablement une autre culture, une autre religion, une autre façon de penser. De plus, c'est un homme de couleur, mais c'est pas ce qui fait la différence. Et voilà que cet homme, nous l'avons lu dans son état, vous avez remarqué la position, c'est un ministre de la reine de Candace, enfin la reine d'Éthiopie, qui s'appelle Candace. Candace doit être un titre qui est donné à tous les rois ou les princes de ce pays antique, l'Éthiopie, qui reste encore aussi un pays d'aujourd'hui. Et il nous est dit qu'il était surintendant de tous ses trésors. Il devait cumuler ministre du budget, ministre des finances, ministre de l'économie, ministre... Enfin, il y a des sous partout. Hein. Voilà, on peut le dire de cette manière, si vous voulez. Et c'est un homme très important. C'est un homme qui est riche. Eh oui. Il est probablement, il a été élevé en dignité. Et puis, pour remplir cette fonction, il faut certainement avoir, l'accréditation et la dignité qui est voulue, parce qu'on ne confie pas les finances à n'importe qui, je dis ça, c'était pas prémédité, parce qu'on va parler de finances aujourd'hui dans l'Assemblée Générale, Enfin, nous aussi, un ministre des Finances, je tiens quand même à le dire. Mais toujours est-il que, cet homme, c'était un royaume, c'était un empire. Et il avait, naturellement, cette position. Et pourtant, c'est un homme riche, c'est un riche, à la recherche de la fortune qui lui manque. Et oui, on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a un deuxième personnage, il s'appelle Philippe, évangéliste de la dernière heure, un homme qui va se révéler, qui va être choisi pour s'occuper des questions sociales dans l'église première de Jérusalem. Alors, il va être choisi, et puis on va lui dire, maintenant, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'était vraiment une tâche sociale, mais il va vite se révéler comme un formidable évangéliste. Il ne sait pas seulement s'occuper des gens qui ont besoin, et il se sert de ses mains, il se sert de ses pieds, c'est un homme très, très actif, mais il va, à un moment ou un autre, être remarqué par les apôtres, pour avoir finalement reçu un don de Dieu, un trésor de Dieu, on pourrait dire, un ministère de Dieu, c'est qu'il a, en effet, le don de la prédication, le don d'annoncer la parole de Dieu. Et il va devenir un évangéliste. Voilà. Il va dire à tout le monde, tous ceux qu'il rencontre, il va dire, il faut que vous croyiez en Jésus. Parce que Jésus, finalement, est le troisième ou le premier personnage, c'est la richesse, c'est le trésor, lui. Jésus est le trésor à posséder. Alors, il y a donc l'Éthiopien, un riche, je l'ai dit, à la recherche d'une fortune qui lui manque. Il y a un pauvre, parce que Philippe, c'est un pauvre. Il était là prédisposé et préoccupé à s'occuper des pauvres à Jérusalem, mais lui aussi est pauvre, et il est riche d'un trésor inestimable. Et il faut que les deux se rencontrent. Il faut que le besoin de l'un soit répondu, finalement, par le don de l'autre, en quelque sorte. Et ce que je voudrais simplement dire ce matin, c'est que c'est exactement la configuration dans laquelle Dieu nous a placés. Il y a autour de nous des gens peut-être qui sont riches, je ne sais pas, j'en dirai pas plus, mais qui manquent quelque chose d'important. Comme Jésus qui rencontrera le jeune homme riche et qui lui dira, maintenant, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et il lui dira même, il te manque quelque chose pour nous montrer que les vraies valeurs, elles ne sont pas ce que nous pensons. Pour nous montrer que dans la société dans laquelle on est, c'est pas ce que nous croyons. Où on parle de pauvreté, où on parle de richesse, où on parle de misère, où on parle d'avoir excessif et inimaginable. Et je crois que j'ai entendu hier à la télé quelqu'un qui disait qu'il y avait, je ne sais pas, 600 et quelques, vous pourrez le confirmer, mais 600 et quelques hommes qui possèdent la fortune mondiale, et à eux seuls, ils possèdent finalement autant que tout le reste du monde, c'est-à-dire 5 milliards et quelques d'habitants, vous vous rendez compte? Alors ça vous donne quand même le tournis quand vous voyez ça. Mais c'est comme ça, Dieu a fait les riches et il a fait les pauvres. Mais il a fait qu'ils se rencontrent. Il a fait que, finalement, on peut être fabuleusement riche en manquant de tout intérieurement, et on peut avoir peu de choses et posséder le véritable trésor. C'est ça la question. Toute la question est là. Alors, Philippe, c'est un riche. Et je tiens à le rappeler, un riche qui possède un trésor. Et ça me fait penser à Pierre et Jean, toujours dans le livre des apôtres, quand ils sont montés au temple pour prier, ils ont vu un mendiant qui était boiteux. Vous vous souvenez de l'histoire, hein? Et cet homme avait l'habitude de demander parce que finalement, eh bien, il avait fait que ça toute sa vie. Puis il voyait des gens qui passaient, des gens qui allaient dans le temple pour faire leur offrande à Dieu, etc. Puis là, Pierre et Jean l'ont regardé, ils ont fixé les regards sur lui. Et Pierre a pris la parole. Il lui a dit ceci, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. » Vous savez ce que c'était le cadeau ?« Maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. » Ça, c'est la vraie richesse pour celui qui n'a jamais marché. Tout dépend de ce qu'on appelle richesse. Tout dépend de ce qu'on appelle trésor. Pour un malade, la véritable richesse, eh bien, c'est d'être en santé. Ça, c'est la richesse. Peut-être pour d'autres, dans d'autres significations et dans d'autres sens, eh bien, ça va revêtir, eh bien là, autre chose, naturellement. Mais je n'ai ni or ni argent. Et vous savez que ce que nous sommes, les uns et les autres, on n'a certainement pas de grande fortune au milieu de nous, parce que ça se saurait quand même. Hein? Mais toujours est-il que ce que nous avons, eh bien, nous avons plus que tous les autres. Et nous pourrions dire qu'avec ce que Dieu nous a donné, nous sommes les hommes les plus heureux de la terre, c'est pas vrai? Oh là là, c'est formidable! Réjouissez-vous! Ah, ça y est, c'est bien. Hein? Mais j'ai bien compris que vous étiez joyeux ce matin dès en arrivant. Hein? Et vous avez chanté de tout votre cœur. Parce que quand on est heureux, on chante. Quand on est malheureux, on pleure, on se plaint, on geint. Voilà, tout simplement. Alors, on va revenir sur notre fameux texte, et puis j'aimerais dire quelques mots sur, quelques mots sur ce que nous avons lu. Les apôtres principaux, Jean et Pierre, reviennent d'une tournée missionnaire dans cette région de la Palestine que l'on appelle la Samarie. Vous savez, c'était des gens qui avaient leur petite religion à eux, c'était pas des juifs, c'était pas des juifs entièrement, c'était pas des païens entièrement, mais il y avait là toute une confusion de doctrine, d'adoration, et Jésus nous en parlera d'ailleurs d'une manière formidable et merveilleuse, quand une femme de cette région-là va se convertir. Vous savez, elle s'appelle la Samaritaine. Et c'est peut-être justement au témoignage de cette Samaritaine que nous nous retrouvons dans le livre des Actes au chapitre 8, parce que quand on rend témoignage, même si ça pousse pas tout de suite, même lorsque nous voyons des pauvres gens et que nous leur partageons la richesse, même s'ils n'y touchent pas du bout des doigts au départ, mais qui sait qu'avec le temps, finalement, eh bien, le Seigneur va pas les convaincre. Hein. Parce que vous connaissez cette parole de Paul, il dit ceci, mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quand vous rendez témoignage et que vous êtes déçu, quand vous voyez qu'une journée après, la personne n'a pas encore donné son corps au Seigneur, mais ne vous découragez pas, parce que ça peut venir dans un mois, dans 6 mois, peut-être dans 1 an, et peut-être beaucoup plus tard. Et moi je crois que cette mission d'évangélisation que nous avons saisie dans notre livre des Actes au chapitre 8, c'était certainement le bénéfice et le profit de cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine qui ce jour-là portait des fruits. Parce qu'il s'est passé quand même, quand Philippe est arrivé, et si vous lisez le chapitre 8, mais avant ce que je viens de lire, vous verrez qu'il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes et toutes sortes de choses. Voilà le bénéfice, la richesse de l'évangile. Voilà que Philippe va se trouver là, à ce moment-là, dans ce contexte d'effervescence et de réveil spirituel. Et il nous est simplement dit, d'une manière assez abrupte, parce qu'on touche au surnaturel tout de suite, un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui a dit ces paroles, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, et avec cette petite précision qui peut être en décourager quelques-uns, ce chemin qui est désert. » Je le rappelle, Philippe, l'évangéliste, venait de vivre un formidable réveil. Un souffle de l'esprit, avec des conversions, avec des guérisons, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient, etc. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait, comme on aimerait bien voir aussi, dans notre temps et dans notre pays. C'est le souffle de Dieu, tout simplement. Et faut y croire, parce que ça existe, ça. Et voilà que Dieu va l'interpeller par le truchement d'un messager angélique, et il va lui dire, « Eh bien, lève-toi, tu ne vas pas rester ici, et moi je vais te demander d'aller sur ce chemin, ce chemin qui va de Jérusalem, c'est-à-dire en haut, et qui descend vers le désert du Négev jusqu'à Gaza. On entend souvent parler de Gaza. On entend toujours parler de Jérusalem et de Gaza encore aujourd'hui. Hein. Vous voyez que ça n'a pas été rayé de la carte. Hein. Et dans quelles conditions, malheureusement. Et il est dit, mais qui est désert? Le pauvre Philippe a dû se poser la question, mais en disant, mais Seigneur, tu te rends compte? Pierre et Jean sont partis, ils m'ont laissé tout seul. Il y a un réveil à gérer. Il y a une église qui est en train de se remplir. Il y a là des dizaines et des centaines de personnes qui se tournent vers toi. Et moi, tu me demandes d'abandonner cette mission. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reste là. L'ange lui dit, mais lève-toi. Et tu vas là où je te demande, sur ce chemin qui est désert. C'est un peu la douche écossaise, si vous voulez aller par là. Passer, finalement, eh bien, de l'effervescence et de l'exaltation spirituelle à ce qui est, finalement, le vide, un désert. C'est ça, il y a le vide. Et il devait se poser la question, le brave Philippe, en disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je suis puni? Est-ce que Dieu me retire le don d'évangéliser? Vous savez, on peut se poser toutes sortes de questions quand quelquefois on se retrouve un petit peu là, sans savoir où l'on est, où on va. Mais pourtant, il nous est dit, parce que c'est un homme de Dieu. Et vous savez, les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, elles obéissent sans comprendre. C'est pas la foi du charbonnier, mais elles obéissent sans comprendre. Parce qu'elles ont suffisamment, ils ont suffisamment de raisons de croire que quand Dieu leur parle, eh bien, c'est qu'il va y avoir un plan. Il y a un plan, il y a une nouvelle mission. Il y a tant de gens qui ne veulent pas lâcher le morceau sur lequel ils sont. Qui le tiennent et qui se disent, eh bien, moi, je resterai jusqu'au bout, parce que l'œuvre de Dieu, elle ne peut marcher qu'avec moi. Mais écoutez, un jour ou l'autre, il va bien falloir partir, hein, d'une manière ou d'une autre. Et il s'est pas attaché à cette exaltation et à cet enthousiasme du réveil. Il s'est levé et il est parti. Et il nous est dit que sur ce chemin désert, il n'était pas tout à fait désert. C'est qu'il y a eu là un Éthiopien, un homme donc de ces régions de l'Est de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique, on peut dire ça comme ça. C'était un eunuque. C'était un homme qui normalement, eh bien là, ne pouvait pas se reproduire. Hein, comprenez? Et il était ministre de Candace. Voilà, on nous l'a déjà signalé. Un homme d'une grande valeur morale, d'une grande honnêteté, parce qu'on peut pas l'être autrement. La reine d'Éthiopie. Et il était surintendant de tous ses trésors. Je vous rappelle, un homme riche. Quand on est à la tête d'un empire, quand on est à la gestion d'une fortune telle que cette nation d'Éthiopie qui était quelque chose de fabuleux, hein. C'est là où passait tout le commerce. Le commerce de l'Antiquité, avec l'or, l'argent, hein, tout ce qu'il pouvait y avoir, l'encens et toutes sortes de choses. C'est souvent cité dans la Bible d'ailleurs, hein, comme un pays fabuleux, comme un pays où il y avait des richesses considérables. Et il était venu finalement à Jérusalem, et il était venu pourquoi? Il était venu pour adorer un étranger, un païen. Il était venu, qu'est-ce qui lui avait donné l'idée finalement de venir à Jérusalem? Pourquoi à Jérusalem? Pourquoi dans la capitale des Juifs? Qu'est-ce qui lui était passé par la tête? Oui, surtout qu'à cette époque, dans les révolutions de palais qu'il pouvait y avoir dans tous ces royaumes, venir de l'Éthiopie à Jérusalem, ça ne se faisait pas en 24 heures en avion. Hein. Il fallait remonter tout le désert. Et c'était des jours et des jours de marche à dos de chameau. Il n'est pas venu tout seul, il a dû venir avec une escorte, hein, avec des soldats, avec probablement beaucoup de richesses qui l'accompagnaient pour offrir dans le temple de Jérusalem. Mais il avait quelque chose au cœur. Il avait quelque chose au fond de lui. L'idée lui était venue, et cette idée, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, c'est l'Esprit de Dieu. Et il s'est dit, il faut absolument que je voie avant de mourir. Lui, c'était pas la Mecque, hein, qui l'intéressait. Parce qu'il n'en était pas loin. Ça n'existait pas à l'époque. Mais il se dit, il faut que je voie, que je comprenne ce que veut dire la foi de ces hommes, ces Juifs, ces Hébreux. Et pour lui, c'était comme quelque chose de magnétique, Jérusalem. Il voulait voir. Il était venu pour adorer. C'était pas son Dieu. Mais vous allez voir que c'est assez étonnant. C'est que quelquefois, nous cherchons en tâtonnant Dieu. Et nous allons de droite et de gauche. Quelquefois, certains ont fait un long périple. Comme ça, et à un moment donné, il trouve, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, qu'est-ce que Dieu répond? Je me laissais trouver, tout simplement. Et ça, c'est le cas de notre Éthiopien, venu à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël, le Dieu d'Égypte. Et voilà qu'après probablement un séjour de 8 jours, 15 jours, 1 mois peut-être, parce qu'il n'est pas venu comme ça en coup de vent, il a dû s'installer et puis il a dû faire ce qu'il devait faire. Il allait certainement plusieurs fois par jour dans le temple, il a dû visiter la splendeur de cette ville, qui est quand même la cité de Dieu. Hein. Aujourd'hui c'est encore un peu différent, mais à l'époque ça devait être quelque chose. Hein. Le temple était encore sur pied à ce moment-là, hein. Et il devait être émerveillé. Voyez un homme qui vient à Jérusalem pour chercher Dieu, qui va trouver Dieu et qui va repartir sur le chemin en découvrant autre chose. Mais Dieu nous conduit comme il veut, hein. Dieu nous montre le chemin comme il l'entend. Et voilà que cet homme, après son séjour à Jérusalem, s'en retournait. Il était assis sur son char et il avait fait l'acquisition de quelque chose qui était aussi précieux que sa visite, mais qu'il allait lui rappeler toute sa vie sa visite, il lisait le prophète Ésaïe. Il avait acheté un exemplaire, finalement, eh bien, de la Torah, de la Bible, si vous aimez mieux, de l'Ancien Testament. Et il avait de quoi faire, hein, dans son char, parce que à la marche des chevaux, quand il devait faire, je sais pas moi, 20 km ou 30 km dans la journée, c'était déjà pas mal. Hein. Ou à dos de chameau, hein, ça va peut-être encore moins vite. Et voilà qu'à un moment donné, pendant que cet homme est en train de méditer, qui se pose des questions, qui est en train de se remémorer tout son vécu merveilleux qu'il a vécu dans cette ville de Jérusalem, il repartait déjà content. Hein. Il n'était pas venu pour rien. Il avait vu les cérémonies, il avait vu les grands prêtres, il avait vu cette foule, il avait vu les sacrifices que l'on faisait au Dieu d'Israël. Il avait appris beaucoup de choses, comme il n'avait jamais appris jusqu'alors. Parce que il avait certainement entendu parler de la foi des Hébreux quand il était dans son pays. Mais maintenant, il avait vu cette autre chose. Hein. Là, il avait vérifié que c'était ça. Hein. Et il nous est dit, alors maintenant nous passons sur une autre page, il nous est dit que, vous souvenez que Philippe est en train de marcher dans le désert, hein. Et lui, il est en train de se gratter la barbiche, je ne sais pas s'il en avait une, mais en train de dire, mais qu'est-ce que Dieu a bien pu faire pour que je sois ici? Moi, je vois personne. À droite, à gauche, de Jérusalem jusqu'à Gaza, je n'ai vu personne. Il n'y a personne sur cette route. L'Esprit dit à Philippe, soyons réceptifs à la voix du Saint-Esprit, vous savez. Il ne faut pas prendre toutes les révélations et tout ce que les sentiments et les impressions que nous pouvons avoir comme révélation de Dieu, mais quand même. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, n'éteignons pas la voix qui quelquefois nous parle. Et l'Esprit, dit à Philippe, avance et approche de ce char. Vous savez, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu se servira de nous que dans la mesure où nous sommes enclins à l'écouter. Et non pas à murmurer, non pas à contester, non pas à douter en permanence. Parce que le doute, c'est une maladie qui se guérit. L'incrédulité, c'est une maladie mortelle dont Dieu peut nous en débarrasser si nous faisons l'aveu de ce péché. Douter n'est pas un péché, mais l'incrédulité est un péché. Et si nous demandons à Dieu, finalement, de nous en délivrer, eh bien, il pourra se servir de nous. Il nous rendra flexibles, malléables. Nous comprendrons quelle est la volonté du Seigneur. Alors, avance et approche-toi de ce char. Et l'Esprit de Dieu va se servir de lui parce que c'est un homme qui sait reconnaître la pensée de Dieu. Alors Philippe est accouru. Imaginez-vous, les mots ont un sens. Hein. Pour une fois que je rencontre quelqu'un sur cette route, il est accouru et il a entendu, il a parlé, il s'est approché du char. On a dû peut-être lui permettre de s'approcher. Un passant sur une route déserte, bon, ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un quand on a marché pendant des heures et qu'on n'a vu personne. Hein. Alors Philippe a entendu, il s'est approché, il a tendu peut-être un peu l'oreille, il s'est approché de l'Éthiopien. Et il s'est aperçu, lui, en bon juif qu'il était, qu'il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait à voix haute. Lire, lire et relire, lire à voix haute, si on peut le faire. Ça s'appelle méditer. Oui, on passe et on repasse et on s'imprime de cette parole. Alors, c'est ce qu'il faisait. Et il a eu un toupet monstre. Enfin, si vous voulez, on va dire un autre mot. Il a eu un culot monstre, Philippe. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Ça veut dire que demain matin, quand vous prenez le bus à Saint-Nazaire, vous voyez quelqu'un lire son journal, approchez-vous de lui et vous lui dites, est-ce que tu comprends ce que tu lis? vous risquez de ne pas faire le voyage jusqu'au bout. Vous allez voir comment vous allez être accueillis. Dites donc, de quoi je me mêle? De quoi je m'occupe? Non mais, écoutez, vous ferez si vous voulez, mais faites l'expérience et vous me direz comment ça s'est passé. Vous voulez pas? Ah, vous manquez d'obéissance. Ah mais j'ai tous les arguments, hein, attention. Comprends-tu ce que tu dis? Alors il a répondu, et voilà l'humilité d'un grand, voilà l'humilité d'un homme qui a des pouvoirs, qui a de la fortune, qui est élevé en dignité. Vous savez ce qu'il va dire à cet inconnu qui s'appelle Philippe? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Eh bien, quand vous avez à rencontrer des gens comme ça, vous pouvez bénir à haute voix le Seigneur, parce que c'est formidable. Ben, vous savez comment ça se passe tous les jours. Vous rendez témoignage 10 fois par jour, les uns et les autres, je le suppose. Et tout le monde vous presse en disant « Parle-moi du Seigneur, parle-moi du Seigneur, j'ai vraiment besoin du Seigneur. » C'est ce qui vous arrive tous les jours. Et quelquefois on se dit « Mais attendez, Seigneur, il y en a trop, je rends trop témoignages, maintenant je ne sais plus où donner de la tête. » Voilà. Alors, non, c'est pas ce qui vous arrive. Non, malheureusement. On aimerait bien, oui, c'est vrai, qu'on aimerait bien qu'il en soit ainsi. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Quelle humilité ce riche Éthiopien dans sa position. Il devait y avoir le jour et la nuit, cet homme qui était couvert d'or et d'argent dans son char, l'Éthiopien. Et puis, ce simple vagabond, on pourrait dire, ce marcheur là sur cette route, hein, qui était Philippe, qui était habillé comme les pauvres gens de l'époque. Vous vous rendez compte? Oui. Dieu a fait le riche et le pauvre pour qu'ils se rencontrent. Mais bien sûr, et il y a peut-être un échange possible. Ah oui, hein, il y a peut-être quelque chose. Dieu a fait l'un et l'autre pour qu'il y ait une bénédiction à partager. Et c'est bien qu'il y ait des riches. Et c'est bien qu'il y ait des pauvres. C'est moins facile, hein, la vie de pauvreté. Hein. Ça, c'est certain. Mais sachez que l'un a ce que l'autre n'a pas. Et si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il y a certainement une communication beaucoup plus haute et un échange. Vous savez, je pourrais le résumer de cette manière. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il y en a qui ont du pain en abondance, et puis il y en a d'autres qui ont la parole de Dieu, la nourriture morale et spirituelle, la nourriture de l'éternité, la richesse illustrée par le pain, à travers notre vie d'ici-bas, parce que nous avons besoin de pain, et c'est tout à fait nécessaire, parce que nous ne pouvons pas vivre sans pain, vous comprenez tout ce que ça veut dire. Ça recouvre naturellement tous nos besoins humains. Et puis, il y a également ce dont nous possédons, parce que de pauvres que nous étions, comme le dit ce petit cœur, et Dieu nous a fait riches. Moi, je me sens pas pauvre. Ouais, c'est vrai, je ne manque de rien. Enfin bon, j'espère que je vous fais pas pitié. Hein? Voilà. Mais je suis très heureux parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est encore plus grand que tout le reste. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il me donne. Oui, je suis reconnaissant et je dis merci Seigneur parce que quand on n'a pas trop, eh bien on peut compter parce que quand on en a trop, on ne sait plus compter. Ben oui. Moi j'ai essayé de faire l'état des lieux de mes maisons, de mes Mercedes, de mes piscines et tout ça. Il y en a une. Elle est immense. Vous avez compris? Voilà. Elle est à moi, elle est à tout le monde, mais bon, elle n'est pas chez moi, hein. Mais bon, voilà. Et c'est pour dire, je me réjouis de tout cela et je bénis le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui me réjouit tous les jours et que je n'oublie jamais, c'est que le Seigneur m'a donné un royaume. Il m'a donné d'être ambassadeur dans son royaume. Il m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour les promesses de la vie présente et des promesses de la vie éternelle. Ça, c'est extraordinaire. Alors, comment le pourrais-je? Et il a invité Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ouais. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui soient aussi réceptifs, disposés, prédisposés comme l'Éthiopien. Des gens qui s'intéresse. Et moi, je suis sûr que dans le monde dans lequel on est, autour de nous, il y a probablement des hommes et des femmes, dans notre ville, à Redon, à Saint-Nazaire et dans toute notre région, il y a des hommes et des femmes qui lisent la Bible. Qui sont peut-être là, dans le royaume d'Éthiopie, je veux dire, hein, renfermés dans une culture, dans une religion, dans toutes sortes de choses, et qui lisent, et qui se posent la question, mais qui pourra me guider? Alors nous ne sommes que des petits jalons, vous savez? Nous sommes que des petits témoins et ambassadeurs, mais néanmoins, Seigneur, donne-nous, et prions pour cela, pour qu'il nous donne de pouvoir rencontrer ces gens, et de pouvoir, finalement, eh bien, aller auprès d'eux et que nous puissions nous asseoir ensemble pour prier. Prier avec eux. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens sont disposés dans les visites que nous pouvons faire, et parfois à des gens que nous ne connaissons pas, et je le propose souvent, et on peut le faire, et quelquefois c'est eux qui me demandent « Est-ce que vous voulez prier pour moi ?» Ça, c'est le moment. Est-ce qui ? Est-ce que vous voulez prier pour moi ? Parce que quand les gens demandent « Est-ce que vous voulez prier pour moi ?» c'est quand même quelque chose. C'est formidable. Alors Philippe est monté et qu'est-ce qu'il a fait? Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci parce qu'il n'y a pas de hasard, vous le savez. Hein. Il est tombé exactement sur le don, le sacrifice de Jésus à la croix, version prophète Ésaïe, hein. C'était une prophétie, c'était une prédiction. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, Ésaïe chapitre 53, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche, et dans son humiliation, son jugement est élevé. Et le nôtre en même temps, et sa postérité qui la dépeindra. Eh bien, la postérité, elle est en train de se faire à ce moment-là. Elle se faisait par les apôtres, elle se faisait tout simplement par ces envoyés qui allaient jusqu'aux extrémités de la terre prêcher l'évangile. Elle se faisait par un simple serviteur qui s'appelait Philippe, un évangéliste. Elle se faisait par là. Ne cherchons pas à savoir comment le Seigneur va faire les choses, lui, il le sait déjà. Et il sait qui va choisir, lui ou elle, ou tous, finalement, et tous nous sommes. Alors cette postérité, c'est nous, et cette postérité, eh bien, elle est arrivée jusqu'à nous, et puisse plaire à Dieu qu'elle continue, jusqu'au moment où, au retour du Seigneur Jésus. Hein. Car sa vie a été retranchée. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi, parce qu'il ne sait pas encore. Écoutez, ce qui est formidable, c'est que cet eunuque était venu à Jérusalem pour entendre parler de Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple juif, et il est reparti avec Jésus, c'est formidable. Hein. Il y a des gens qui recherchent Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Rechercher Dieu est une chose, découvrir Jésus, c'est la finalité de la volonté du Père, la finalité de la volonté de Dieu, c'est que nous sommes sauvés à travers Jésus-Christ. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une seule vie. Eh bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Venu à Jérusalem pour adorer Dieu, pour découvrir le Dieu des Juifs et repartir sur le chemin en ayant découvert Jésus. C'est pas formidable? C'est extraordinaire. C'est pas notre périple que nous avons fait nous-mêmes? Moi, je le dis toujours. Le monde catholique m'a donné la crainte de Dieu. Dieu existe. Dans l'église réformée où j'étais en Hollande, ils m'ont donné la Bible. En lisant la Bible, j'ai découvert Jésus, et quand je suis arrivé dans les milieux évangélistes en France, eh bien là, je me suis donné complètement au Seigneur. J'étais revenu d'Éthiopie, moi aussi. Eh oui, ça peut être dit comme ça. Je suis revenu en train, pas en chameau, vous avez bien compris. Alors, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, je passe très vite. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Dites donc parmi nous, les amis qui êtes là, qui venaient et qui revenaient, je voudrais vous dire, vous croyez en Jésus-Christ? Vous croyez, vous n'allez pas obligé de me répondre parce que c'est un petit peu délicat, mais vous croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ? Ben, qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisé? Si vous croyez? Pas de problème? Vous savez, même cet après-midi, on peut faire quelque chose, hein. On est là toute la journée. Philippe va lui répondre cette parole toute simple. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et voilà notre païen qui va devenir chrétien, parce que chrétien, c'est mot, ça vient du mot Christ, hein. Il n'est pas devenu juif. Il est devenu chrétien. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Merci Seigneur. Alors ils ont arrêté le char et ensuite ils sont descendus tous les deux dans l'eau. Alors, je voudrais mettre une petite réserve. Tous les deux dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils avaient trouvé certainement un petit oued, comme on appelle dans ces pays, où il y avait suffisamment d'eau, parce que si ça avait été une goutte avec une coquille Saint-Jacques, ils n'auraient pas pu descendre dans la coquille tous les deux. Pas possible. Tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. C'est un petit clin d'œil que je vous fais, mais mes amis, frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés à être tous des Philippes. Il nous a appelés à avoir la compréhension des indications du Saint-Esprit. Il va nous conduire, il va nous bénir. Et moi, je crois que tant à Saint-Nazaire, où il reste encore des places à remplir, à Redon, nous avons alors là vraiment une salle à remplir, eh bien, nous sommes tous employés et conduits par le Seigneur pour que nous soyons des agents de bénédiction. Mais n'oublions pas de dire où sont les vraies richesses. Ouais, il y a des gens qui sont riches et qui sont véritablement dans l'indigence. Et il y a des enfants de Dieu qui avons juste ce que nous avons besoin, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes riches. Nous sommes riches beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Alors on va remercier le Seigneur maintenant quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux parce que tu nous as appelés. Ô Seigneur, tu n'as pas choisi, en effet, Seigneur, eh bien là, des hommes avec des fortunes. Mais la seule fortune que nous puissions avoir, la perle de grand prix que nous avons découvert, c'est parce qu'un jour, en effet, un Philippe, quelque part, nous a parlé de Jésus, et c'était la perle de grand prix. Nous sommes tous, en effet, des hommes et des femmes, tels que nous sommes. Et ne nous complaisons pas à pleurer parce qu'il nous manque ceci, parce qu'il nous manque cela, puisque nous avons le principal. Et nous te louons et nous te bénissons. Merci parce que le trésor que tu veux que nous partagions, c'est un trésor qui est au fond de notre cœur et qui va s'exprimer tout simplement par notre bouche en bénissant le nom de Jésus devant les autres hommes et en les invitant, en effet, à te découvrir, à te trouver. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.